Bonsoir à toutes et à tous. Je suis Jean-Michel Roman, donc conseiller social à l'Union française de l'électricité. L'UFE, c'est l'association des entreprises du système électrique, production, transport, distribution et services, commercialisation d'électricité. Et donc, on va partager avec vous et avec les quelques invités là autour de la table un autre sujet. Il y en a été assez peu question. Alors évidemment, en filigrane, ça transparaissait quand même dans toutes les présentations, mais je crois que le mot en lui-même a été prononcé une ou deux fois, pas plus. C'est la question des métiers, la question des compétences aussi et des talents. Et puis, Alain Brénac nous a remémoré hein, le temps des savants, le temps ensuite des ingénieurs et des entrepreneurs. Bon, moi, je dirais que s'agissant des métiers de l'électricité, et il y en a beaucoup et on va essayer un petit peu de vous les développer, c'est le temps de l'électrochoc, parce que le temps de la mobilisation, donc c'est aussi un sujet là en cette fin d'après-midi qu'on aimerait partager avec vous, parce que je pense que tout un chacun, chacune et chacun d'entre vous pourra repartir avec aussi une mission, parce qu'il y a matière, je pense, à remobiliser un petit peu autour de ces métiers de l'électricité. Bon, dont on va essayer de vous parler. Donc, les invités autour de la table, donc Anne Valax, vous êtes directrice générale du CERS, qui rassemble les entreprises de la transition énergétique et numérique. Isabelle Avenas-Payan, vous êtes présidente du comité promotion des métiers de l'ingénieur et du scientifique hein, au sein d'ISF, je pense association bien connue ici. Marie-Thérèse Lehoucq, présidente de l'Union des professeurs de physique-chimie, et Antoine de Fleurieu, délégué général du GIMELEC. Le GIMELEC, c'est le groupement des entreprises de la filière électro-numérique en France. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, alors, c'est vrai qu'on est rassemblés ici par Ampère. Moi, je m'étais dit, si Ampère revenait aujourd'hui parmi nous, je pense qu'il serait sans doute frappé de la variété, de la richesse, effectivement, des développements hein, auxquels a donné lieu son invention et ses découvertes, et surtout la richesse des activités et des métiers. Donc, avant de parler même de tout ça, des métiers, des compétences, il paraissait utile de préciser ce qu'était la filière électrique aujourd'hui en France, hein, peut-être un petit peu de vous la schématiser, et puis de dire combien de personnes elle employait. Alors, bon, je vais le faire en quelques mots. Déjà, on a pris un petit peu de retard. Ce sont des informations que vous pourrez retrouver dans une étude qui est disponible sur Internet. Je rappellerai les références en fin de table ronde. Hein, une étude sur le développement des emplois et des compétences qu'on a menée donc, à l'UFE, le CERS, le GIMELEC et six autres associations d'entreprises avec l'État, le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle et puis quatre fédérations syndicales. Pour justement essayer de faire un diagnostic, un état des lieux, des emplois et des compétences de la filière électrique dans notre pays. Alors, schématiquement, hein, pour que vous fassiez effectivement des repères, la filière électrique, c'est tout d'abord le système électrique, c'est-à-dire les entreprises qui produisent, qui transportent, qui distribuent, qui commercialisent l'électricité. Alors, vous avez vu les exemples, on a parlé des réseaux. Ça, c'est le système électrique qui emploie dans notre pays 300 000 personnes actuellement. Ensuite, si je poursuis dans le schéma, c'est tous les métiers de l'électricité qu'on va trouver dans le bâtiment. Et là, je ne parle pas de la construction, du gros œuvre. On a la partie bâtiment en tant que telle, mais c'est toutes les installations, les connexions, hein, et puis on pourra les développer tout à l'heure, qui existent dans le bâtiment. L'éclairage, toutes les connexions nécessaires à ce que le froid, le chaud s'organisent, la ventilation, l'aération, tous les systèmes en plus, j'allais dire aujourd'hui, de domotique, de contrôle. Donc tout ça, c'est évidemment des développements de l'électricité très importants. Et puis c'est également un facteur d'emploi très important puisque l'électricité dans le bâtiment, c'est aujourd'hui 222 000 emplois en France. Ensuite, je poursuis, c'est l'électricité également dans l'industrie. C'est tout ce qui, effectivement, permet au processus industriel de se dérouler, hein, avec donc un certain nombre de machines, d'appareils, de systèmes, d'automatismes, et là aussi de climatisation, de chauffage, de distribution et de réseaux à l'intérieur même des installations industrielles. Et puis c'est également la fabrication des matériels électriques, puisqu'on a parlé de transport, de distribution, etc. Tout cela se fait avec des matériels qui sont fabriqués eux aussi beaucoup en France, hein, des matériels, et puis pour du réglage de l'électrique de puissance, pour que le système fonctionne, il y a également tout cela. Et puis, dernière partie, c'est l'électricité. Il en a été question aussi déjà dans les sujets précédents, dans les infrastructures, dans les villes et dans les infrastructures de transport, les gares, les aéroports, les installations portuaires, et puis les villes, l'éclairage, la signalisation, etc. Et puis, ce qui d'ailleurs traverse, j'allais dire, tous ces secteurs, c'est également la question de l'interconnexion, hein, donc tout ce qui est relatif au traitement de la donnée, hein, aux systèmes digitaux qui utilisent de l'électricité, et puis du stockage qu'on va retrouver aussi un petit peu partout. Voilà, donc simplement pour dresser un petit peu le décor, pour savoir de quoi est-ce qu'on parle, et quand, bon, parce qu'il nous paraissait, et avec beaucoup d'acteurs, on partage souvent sur ces questions, les métiers de l'électricité sont malheureusement un peu méconnus, hein, qui dit électrique, métier de l'électricité, c'est électricien, bon voilà, c'est peut-être un petit peu limité, en tout cas, première idée à retenir ce soir, c'est quand même l'extrême diversité de ces métiers. Alors, simplement, ce qui se passe, et ça a été dit cet après-midi, hein, la filière électrique, les entreprises, même notre pays, on est dans un contexte de changement et de mutation profonde, hein, lié à la transition écologique et énergétique. Et bon, il y a bien sûr des objectifs et des rythmes très ambitieux. Donc là, je me tourne tout d'abord vers vous, Antoine de Fleurieux. Dans ce contexte, est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui la manière dont les choses, dont les problématiques se posent pour les entreprises en matière de la manière d'en se projeter, la manière d'accompagner, la manière d'agir dans cette transition énergétique et les principaux défis à relever?
Oui, merci. Merci beaucoup pour votre invitation à participer à cette table ronde. En fait, Hervé Lafaille précédemment, Yann Vincent précédemment, on dit déjà beaucoup de choses. Donc je vais finalement paraphraser. J'avais préparé des petites choses, mais on a retrouvé beaucoup de choses dans ce qui était dit précédemment. Et y compris, et là, je me permets de vous contredire Jean-Michel, mais finalement sur les compétences, j'ai noté qu'Yann Vincent, pour ACC, a placé dans ses 10 points clés l'accès aux compétences.
Oui, j'ai dit que ça avait été cité, c'est ça.
Mais comme un point clé essentiel. Donc nous, on représente une filière industrielle qui œuvre dans toute cette filière électrique, mais on intervient aussi sur les infrastructures du numérique, etc. Et on voit la période aujourd'hui comme une période unique. On n'a jamais vécu ça. Je commence à avoir un petit peu d'expérience maintenant dans le secteur. On est face à nos 30 glorieuses quasiment, et avec un nombre de défis incroyables à relever. RTE a sorti son étude Horizon 2050, Futures énergétiques 2050 récemment. Donc on voit bien qu'il y a un champ incroyable. La décarbonation va s'accompagner ou s'accompagne déjà d'électrification. Yann Vincent l'a dit aussi pour l'automobile. Donc ça c'est merveilleux. On voit deux grands enjeux, nous, se poser. Pour arriver sur cette décarbonation, cette électrification, c'est l'accès aux ressources. Enfin, le gros enjeu, c'est l'accès aux ressources. C'est deux types de ressources, ça a été cité, c'est les matières. Et ça, on ne va pas en parler aujourd'hui.
Ce n'est pas le sujet, mais
ouais, on peut faire des conférences. Il y a quand même des projections qui ne sont pas simples. Les matières et puis les compétences. Et les compétences, à la fois en volume, en qualité, parce qu'il y a plein de nouvelles compétences dont on a besoin et qu'on n'a pas aujourd'hui. L'exemple des batteries est criant, mais on est en électronique de puissance, c'est un déficit certain. On a parlé d'hydrogène, mais d'électrolyse, il va y avoir aussi besoin de compétences. On a parlé de cybersécurité. On voit bien que de toute façon, il y a une couche numérique qui accompagne toutes ces transitions. Et en matière de pur numérique, déjà, on a un déficit de compétences, mais en matière de cybersécurité, qui est un enjeu de souveraineté, on a un besoin de compétences énorme. et qui va s'accroître. Et juste quelques chiffres, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nos projections, c'est le premier effort, c'est de réduire nos consommations. Alors, on est plutôt dans un club de gens qui croient encore à la science et aux technologies. Donc, on pense que les 40 ou 45% de réduction de consommation d'énergie finale projetée ne se feront pas que par de la sobriété. Il y en aura peut-être, et il y aura des changements de mode de vie. Mais globalement, on croit beaucoup au fait que les technologies vont nous permettre d'atteindre cette réduction de consommation d'énergie finale. Et ça, c'est beaucoup de compétences parce qu'il va falloir installer des systèmes dans les bâtiments pour réduire leur consommation. Il va falloir imaginer des nouveaux procédés, une nouvelle technologie pour l'industrie, décarboner l'industrie, etc. Donc ça, c'est des besoins de compétences. On a cité l'exemple tout à l'heure de l'automobile. Donc, j'ai entendu les chiffres de Yann Vincent. Je ne sais pas si c'était des mises en marché ou du parc. Je pense que c'est de la mise en marché, 12 millions de véhicules en 2030 ou 2040, je ne sais plus ce qu'il a annoncé. Les projections d'Enedis sur le marché français, c'est un parc de véhicules électriques, de 15 millions de véhicules électriques en 2030, je crois. Donc, c'est considérable. Ça veut dire que le garagiste devient électricien. Donc, c'est une transformation de compétences aussi colossale. Alors, c'est vrai qu'électricien, il n'y a pas que ça, mais il va y en avoir besoin quand même. Et je ne sais pas où on va, enfin, comment on va former tous ces gens-là, mais il y a en tout cas un enjeu de formation et de reconversion qui est considérable. On a des déficits dans l'industrie même, c'est-à-dire que l'un des 10 points clés de Yann Vincent, c'est que pour fabriquer les batteries, c'est à peu près comme pour d'ailleurs les composants électroniques, les machines viennent d'Asie. Donc à part d'ailleurs dans les composants électroniques, un fabricant hollandais, mais très très spécialisé. Mais globalement, on n'a pas de souveraineté sur les machines pour faire les usines qui vont fabriquer les batteries sur lesquelles on veut avoir de la souveraineté. Donc il y a un échelon à gagner encore en profondeur sur la souveraineté. Et des fabricants de machines, on en a en France, mais pas en très très bonne forme si on compare par rapport à l'Allemagne ou l'Italie, la Suisse, qui ont des fabricants de machines et d'équipements bien plus performants. Donc il y a toute une conversion de l'industrie et des compétences dans l'industrie qui va être nécessaire pour accompagner ces nouvelles gigafactories, par exemple, qui sont des enjeux de souveraineté. Voilà, donc c'est un panorama, je le fais un peu dans le désordre, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'en volume, on va avoir des besoins considérables. En nouvelles compétences, des besoins considérables. Alors, il y a l'aspect féminisation aussi.
Toujours
les hommes qui en parlent, mais,
oui, c'est ça.
Mais globalement, en plus, dans nos formations et nous, dans notre industrie, c'est criant, on a un déficit de compétences féminines, mais dès la source, c'est-à-dire dès l'enseignement supérieur, qui est criant, quoi.
Très bien, d'où l'intérêt aussi. Et puis, on aura tout à l'heure un dialogue aussi avec les représentants de l'autre bout de la chaîne, hein, c'est-à-dire de l'enseignement, puisqu'on est accueilli ce soir au ministère de l'enseignement supérieur. Donc il y a bien effectivement cette transition et cette mobilisation autour de ces métiers. Donc bon, les compétences, hein, on l'a bien compris, des nouvelles compétences, des compétences massives et nécessaires, ça renvoie à la notion de métier. Anne Vallax, alors de quel métier est-ce qu'on parle justement? Est-ce que vous pouvez un petit peu nous en parler? Et puis surtout, à qui est-ce qu'ils sont destinés? Parce que qui dit métier, bon, il y a quand même un très vaste champ. On a parlé des ingénieurs, effectivement, mais il n'y a pas que les ingénieurs, effectivement. Donc, est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu?
Bonjour à tous et à toutes. Moi, je représente des entreprises très complémentaires de celles d'Antoine, puisque ce sont des entreprises prestataires de services qui installent les technologies produites par les adhérents d'Antoine de Fleurieux. Et c'est vrai que ça me fait rire votre présentation tout à l'heure, Jean-Michel, parce qu'une fois on m'a demandé de présenter les métiers du CERS, faire un petit pitch en 30 secondes. Et quand je vois votre présentation, c'est exactement tous les métiers sur lesquels mes adhérents travaillent, et ça vous a pris quand même un petit peu plus que 30 secondes. Ce qui veut dire aussi que cette diversité, cette richesse des secteurs, des métiers sur lesquels nous travaillons, dans l'électricité est effectivement absolument partout, dans les réseaux, les infrastructures, le bâtiment, en industrie aussi, nos adhérents sont aussi très spécialisés sur tout ce qui est efficacité énergétique, que ce soit en milieu industriel, qui effectivement a besoin de réduire ses consommations. dans le bâtiment, dans les réseaux. Alors, on a des métiers qui sont à la fois, moi, c'est ce qui me fascine depuis que je suis dans cette organisation professionnelle, à la fois traditionnel, évolutif et moderne. On a, si vous êtes...
Alors,
dans
vous,
les...
vous répétez.
À la fois traditionnel, évolutif et moderne. On peut le prendre dans tous les sens. Mais si vous êtes sur des métiers qu'on considère plus traditionnels, comme dans les réseaux, ce dont parlait Hervé Lafaille tout à l'heure, on peut considérer que ceux que vous avez beaucoup vus la semaine dernière, qui sont dans les champs en haut des poteaux pour remettre le courant parce qu'on a eu deux ou trois tempêtes qui sont passées par là, on peut considérer que c'est un métier très traditionnel. Ce que vient d'expliquer Hervé tout à l'heure, c'est aussi que l'évolution de ces réseaux fait qu'à venir, ces métiers qui vont devenir, ces réseaux qui vont devenir de plus en plus smart grid, oui, de plus en plus intelligents, de plus en plus numérisés,
connectés.
Eh bien, ça va faire évoluer aussi ces métiers. Et quand on pense à tous ces jeunes qui cherchent du sens dans leur métier, c'est clair que ces métiers-là sont extrêmement porteurs de sens, que ce soit d'ailleurs nos fabricants qui de plus en plus innovent pour nous donner des technologies de plus en plus justement innovantes, économiques, favorisant l'efficacité énergétique, ou des entreprises que je représente qui innovent également pour trouver l'application, le mixte de tous ces technos pour arriver au meilleur service que l'on vise.
Et c'est vrai que c'est important de le signaler parce que ce n'est pas toujours perçu comme ça, effectivement. Enfin,
oui.
En tout cas, raison de plus d'insister parce que je pense qu'il y a matière.
Sur les réseaux et l'infrastructure, on touche aussi à l'installation des ENR sur les bâtiments pour faire de l'autoconsommation. Alors, on est une installation classique, on va dire, mais en fait, avec un but qui devient de plus en plus innovant et qui est vraiment très, très moderne et dans le cœur de ce que l'on cherche à faire sur la transition énergétique et sur le climat. Sur le bâtiment, c'est pareil. Sur le bâtiment, nous sommes partis de l'installation des câbles dans le bâtiment, de l'installation de l'éclairage, donc des métiers très, très, très traditionnels, pour aller sur le pilotage de ces consommations. Le fait qu'effectivement, on pilote complètement son bâtiment avec de la production énergie renouvelable pour faire de l'autoconsommation, du pilotage des consommations elles-mêmes. Le fait que ça s'éteigne quand il n'y a personne, qu'on réduise le chauffage, que ça se rallume quand... voilà, on pilote toutes ces consommations. Et ça va aussi sur la climatisation, sur le CVC, sur plein de... toutes les sources, finalement, d'énergie qu'on utilise dans le bâtiment. Et vous faites des logiciels d'hypervision qui deviennent de plus en plus sophistiqués pour piloter tout ça. Et avec votre charge de véhicule électrique, et vous pouvez décompenser certaines charges à un moment donné pour favoriser l'utilisation de la puissance ailleurs. Bon. Ce sont des métiers qui partent de quelque chose de traditionnel pour aller sur une innovation permanente, finalement. Et c'est ça qui est intéressant, et c'est ça qu'il faut que l'on montre tous ensemble. C'est qu'on n'est plus dans l'électricien traditionnel, mais on est dans des gens qui contribuent, finalement, de plus en plus à avoir des bâtiments moins consommateurs. En milieu industriel, c'est pareil. Ce que peuvent faire nos adhérents dans les usines pour assurer une consommation de plus en plus efficace de l'énergie extrêmement importante que doivent consommer le milieu industriel, eh bien, ça aussi, il faut qu'on arrive à le mettre en valeur. Donc, c'est vraiment pour moi des métiers qui sont non seulement extrêmement diversifiés, comme vous l'avez montré. Quand on verra tout à l'heure, on en parlait, les développements sur l'hydrogène, c'est extraordinaire. Ça aussi, ça va donner... une nouvelle utilisation finalement de l'électricité, un nouveau mode et sur lesquels on va avoir besoin de nouvelles compétences. Alors la formation est essentielle. Quand on parle des batteries et des véhicules électriques, il va falloir aussi se pencher sur la formation des gens qui utilisent ces batteries. On parlait des garages qui vont devenir des électriciens.
Oui, les garagistes.
Voilà, il va peut-être falloir les former aux travaux sous tension quand on... Tant qu'on n'aura pas des batteries qui seront complètement en IP2X où on ne touchera plus à rien. Mais voilà, là aussi, il faut aussi qu'on fasse avancer nos formations à la même vitesse que les innovations de nos entreprises, industrielles ou de services, je dis. C'est pas la question.
Très
alors,
bien. Oui.
Après,
sur les tensions, peut-être,
alors,
parce que alors, ce qu'on a constaté.
Ce dont vous parliez tout à l'heure, Ça concerne aussi bien, nous, les tensions, on le voit dans les DEC. Hein,
dans l'étude, effectivement, dans l'étude qu'on a menée, hein, on a vu qu'il y avait des tensions, effectivement, des métiers pour lesquels, déjà aujourd'hui, on ne trouvait plus de ressources, dès aujourd'hui.
Et on a vraiment besoin, à la fois sur les métiers traditionnels, et pour nous, ça va du CAP, BTS, Bac Pro, ingénieur. Tout le monde n'est pas fait pour devenir ingénieur.
Oui, c'est donc à tous les niveaux, hein, on peut insister.
Voilà. Mmh. Et en même temps, ces métiers-là, eh bien, on va les faire aussi progresser dans le contenu. Et puis, nous, on a besoin aussi, puisqu'on suit cette transformation, on a besoin d'énergie manager, on a besoin de BIM manager, on a besoin de data analyst, parce qu'on a des bâtiments de plus en plus intelligents, des quartiers intelligents, des villes intelligentes, énormément de données
qui doivent être traitées.
Quant à leur valeur, mais qu'encore faut-il savoir les analyser, conserver les bonnes. Enfin, voilà. Et ça, c'est un métier. On a besoin de gens dans les bureaux d'études, parce que dans nos bureaux d'études, eh bien aussi, on est aussi bien sur ces métiers traditionnels, le réseau en bureau d'études, que sur du bâtiment intelligent. Et puis, il y avait une question que je devance peut-être.
Non, mais c'était pour mettre un petit peu, pour illustrer quand même la difficulté. C'est peut-être le moment aussi de partager avec les représentants de l'autre bout, hein, du début du tunnel, hein, c'est-à-dire les vocations, peut-être encore un dernier point, oui, Anne Vallas.
Je vais juste répondre à la remarque d'Antoine sur la féminisation, je trouve ça très bien que ce soit un homme qui en parle.
Oui, il l'a dit.
Et plus les hommes en parleront, et mieux ce sera. Et c'est vrai qu'il faut aussi, tous ensemble, que l'on dise aux femmes et aux filles qu'il y a de la place pour elles dans tous ces métiers. Moi, on a un petit site qui s'appelle métier-électricité.com. Et on a des vidéos de jeunes femmes qui travaillent dans nos métiers. Oui. J'en ai une qui fait du raccordement de réseau, métier tout à fait classique. Mais elle l'a vraiment choisi parce qu'elle faisait autre chose dans l'entreprise et elle s'est tournée vers là.
La force du témoignage, oui, c'est ça. Ouais.
J'en ai une qui est responsable d'affaires sur les ENR. Elle est ingénieure et elle travaille sur le photovoltaïque. J'en ai une qui fait du raccordement de fibre optique. Voilà, il y a une ingénieure. Il y a plusieurs... plein de possibilités, et pour ces femmes, à tous les niveaux de compétences possibles, mais c'est notre responsabilité, tous ensemble, d'en parler, de le dire, et d'aller les amener vers notre profession, et arrêter de dire que les métiers du BTP, c'est fait pour les hommes, les deux pieds dans les bottes, et dans la boue en plein hiver, quoi. Je veux dire, c'est plus ça, c'est fini, on en est
ouais,
plus là.
Oui, c'est ça, et pourtant, hein, ces images, on la vit dure, sont tenaces, hein, je pense qu'on les rencontre effectivement dans beaucoup de témoignages encore aujourd'hui. Donc, là aussi, alors, vous l'avez dit, les entreprises se mobilisent effectivement beaucoup, hein, dans nos différents secteurs, etc., pour changer ces images, pour faire un peu le témoignage, parce qu'il y en a beaucoup. Mais, ce que l'on voulait partager aussi, c'est sans doute que les entreprises ne peuvent pas agir seules et qu'elles ont besoin effectivement du concours. Alors, là aussi, bien sûr, de la société, mais en particulier des professionnels aussi qui sont au contact de la jeunesse et qui ont cette mission de transmettre, toute la science d'Ampère et de ses collègues scientifiques dont on a parlé cet après-midi pour effectivement susciter peut-être des vocations ou tout du moins éclairer un peu ces jeunes. Et puis, il y a les entreprises, il y a les intervenants eux-mêmes qui se mobilisent. Et là, je m'adresse à Isabelle Avenas-Payan, c'est-à-dire que vous avez les ingénieurs ont réagi, hein, donc les professionnels aussi, pour essayer de communiquer, pour transmettre à des plus jeunes qu'eux, et en particulier aux collégiens et aux lycéens, un petit peu l'envie de se diriger vers les filières scientifiques, technologique et vers les métiers de l'ingénieur. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler de ces initiatives?
Oui, alors c'est des initiatives faites par des bénévoles. Donc, c'est une association d'ingénieurs et de scientifiques. Donc, à la base, effectivement, ce sont des témoignages de carrière d'ingénieurs et de scientifiques. Maintenant, quand on s'adresse à des élèves de collège, on va... témoigner des métiers qui sont connexes aussi aux ingénieurs, c'est-à-dire que c'est depuis le technicien en passant par les techniciens supérieurs, parce qu'un ingénieur tout seul ne pourra pas faire le travail, en fait c'est vraiment des travaux d'équipe. Alors, ce que je voudrais dire, c'est que en fait, on s'adresse vraiment à tous les élèves. Et je pense que c'est important de se rendre compte que... alors, j'aurai trois catégories de jeunes que l'on rencontre. Alors, ce sont d'abord des jeunes qui n'ont aucune idée de ce qu'ils veulent faire plus tard, de l'orientation même qu'ils veulent prendre. Ça peut être aussi bien des élèves en collège qu'en lycée. Ou qu'en classe préparatoire, ou même en école d'ingénieur. Mais bon, plutôt pour les élèves de collège. Et là, il faut arriver à les sensibiliser au fait que finalement, ces métiers scientifiques, il y en a partout. Et ce que vous disiez, Madame Balax, une richesse, effectivement, de ces métiers. Il y a une autre catégorie de jeunes que l'on rencontre, qu'on aime à rencontrer, ce sont ceux qui sont déjà engagés dans une voie scientifique, dont je parlais même des écoles d'ingénieurs, hein, qui choisissent une orientation, une filière, mais sans aucune idée de ce que sont les métiers par derrière. Et donc là, c'est important. Là, on arrive effectivement à leur parler des métiers et de l'intérêt... de l'intérêt de faire des études, enfin pour savoir concrètement à quoi ça aboutit. La troisième catégorie de jeunes que l'on aime rencontrer aussi, et là, c'est important que les enseignants sentent l'importance, c'est les jeunes qui n'ont absolument pas envie de faire des études scientifiques, qui peuvent être rebutés ou pas, enfin, ou qui ont envie de faire, je sais pas, du droit, et heureusement que tout le monde n'est pas scientifique, on a besoin d'autres choses que des métiers scientifiques malgré tout dans la société. Et là, je pense que c'est important aussi de s'adresser à ces jeunes-là pour leur expliquer ce que sont ces métiers, parce que aujourd'hui, la société est très technologique et que dans leur futur professionnel, ces gens rencontreront des scientifiques et ils ont besoin de savoir comment les aborder et à quoi ils servent en quelque sorte.
Donc faciliter là aussi la communication, la compréhension, l'ouverture en tout cas qui permettent, qui réouvrent le champ des possibles et en particulier vers ces métiers qui, alors c'est vrai, ont peut-être tendance un petit peu à être en perte de vitesse, hein, comme on entend d'ailleurs différentes sources, mais non, vous inscrivez un petit peu en faux par rapport à ça.
Alors, pas complètement faux bien entendu, mais je pense qu'il y a quand même malgré tout un engouement dans la technique. Parce que, par exemple, il y a beaucoup de clubs de robotique. Je parle des clubs de robotique parce que, bon, c'est quand même assez... Enfin, il y a besoin d'électricité. On parle beaucoup de Fab Lab aussi. C'est quand même des discussions très, très actuelles. Les jeunes sont aussi attirés, enfin, les jeunes, tout le monde, hein, par la réalité virtuelle, la réalité augmentée. Quand on est dans des forums, enfin, qu'il y a des casques de réalité virtuelle, bon, ça attire quand même pas mal. Et je pense que là, on a peut-être un devoir de réagir par rapport à ça, parce que plutôt de commencer par faire de la théorie et puis ensuite de voir les applications, c'est justement les attirer par l'application et leur montrer après tout ce qu'il y a par derrière, c'est-à-dire tout l'intérêt et les métiers qu'il peut y avoir et l'intérêt de faire des mathématiques, de la physique, de la chimie, enfin de faire ces matières scientifiques pour arriver à justement allier dans leur futur professionnel à la fois leurs envies, leurs goûts et puis leur métier.
C'est peut-être une des pistes, effectivement, parce que notre produit, il est vrai, et tous les services associés sont malheureusement un petit peu banalisés. On n'y pense plus. C'est tellement présent, c'est tellement automatique qu'on ne voit plus nécessairement. On n'a plus cette conscience. Ah, sauf quand il y a une panne, mais les pannes sont quand même rares. Il faut le dire, heureusement. Mais du coup, c'est vrai que, voilà, on ne voit plus et on ne pense plus non plus à tout ce qui est derrière. Alors, on va remonter encore un petit peu la chaîne de la transmission du savoir et de la mobilisation là, des jeunes, pour se tourner là, vers les enseignants eux-mêmes, qui sont souvent passionnés par leur matière, hein, et en particulier les professeurs des matières scientifiques et techniques, hein, toujours par rapport à ce lien un peu évident là, par rapport à l'électricité. Je me tourne vers vous, Marie-Thérèse Lehoucq. Il se trouve que la récente réforme du lycée a conféré des nouvelles responsabilités aux professeurs en matière d'orientation. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce travail en lien, bon, alors vous faites beaucoup de choses, hein, en lien avec la physique-chimie, hein, que vous enseignez, mais comment est-ce que ça se passe, toutes ces discussions, et puis peut-être vous donner l'occasion d'exprimer peut-être un besoin, parce que j'imagine aussi que voilà, dans votre métier d'enseignant, c'est peut-être pas facile non plus de parler des métiers, d'être concret vis-à-vis de répondre aux questions que se posent les jeunes. Donc voilà, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce registre?
Alors, en fait, il y a deux questions dans votre question.
Oui,
en fait,
peut-être. Alors, vous pouvez les répondre dans l'ordre.
En fait, la question, oui, de l'orientation en établissement scolaire, donc ce qui est inscrit dans les textes, hein, parlons de ça. Donc, au niveau quatrième, donc, ça commence au collège, il y a 12 heures d'orientation, c'est-à-dire 12 heures d'orientation, c'est dévolu à l'orientation. Donc, on peut parler effectivement au niveau quatrième des métiers, par exemple, des métiers de l'électricité, mais d'autres métiers. Donc, il y a 12 heures d'orientation en quatrième. Ensuite, il y a un facteur 3, donc on passe en troisième, et donc 12 fois 3, ça fait 36. Donc, il y a 36 heures en troisième. C'est là où effectivement on peut s'orienter vers de la voie professionnelle, par exemple, ou on peut aller vers la voie technologique et générale. Donc il y a, donc là il y a aussi un accompagnement du côté des heures, hein, ça c'est dans le texte, donc 36 heures prévues dans les textes au niveau troisième. Donc vous voyez, c'est un continuum en fait d'accompagnement de la question de l'orientation en établissement scolaire, et ensuite on débouche sur le lycée. Et en fait au lycée il y a 54 heures adressées à l'orientation, donc seconde, première, terminale, pour arriver finalement à des choix dont il serait souhaitable qu'ils soient éclairés, par exemple dans Parcoursup. Donc vous voyez, il y a tout un continuum d'heures donc dans les textes. Alors ensuite il y a aussi la question de la réforme, parce que il y a aussi la question de la réforme.
Oui, cette nouvelle mission, on va dire. Hein,
En quoi la réforme a finalement fait en sorte que la question de l'orientation soit plus prégnante en fait.
Oui, et puis qu'elle soit confiée là aussi à des enseignants qui transmettent le savoir, mais qui là aussi c'est d'autres questions.
Mais je ne sais pas si tout le monde est bien au courant de ce qui se passe sur le plan réforme effectivement dans les lycées. C'est essentiellement la question des choix. Donc vous avez un élève et sa famille, parce que aussi il y a le contexte familial aussi là-dedans.
Oui, les prescripteurs du choix.
Et donc il y a des familles qui sont des familles de médecins, il y a des familles par exemple qui font du droit, il y a des familles de scientifiques, mais voilà, il y a des tas de familles, et donc il y a un contexte aussi familial avec les jeunes. Donc dans cette question de la réforme du lycée, ça renvoie à des choix. Donc il faut choisir des spécialités, et il faut faire ce choix par exemple en seconde, là où effectivement on met 54 heures d'orientation pour participer à cette réflexion collective, donc les équipes, mais aussi les professeurs principaux essentiellement, qui vont être donc sur cette réflexion pour aiguiller des jeunes et des familles, parfois aussi, sur ces choix de spécialité. C'est nouveau, il n'y avait pas de choix de spécialité, on choisissait quand même une série, donc il fallait quand même faire un choix d'orientation
dans la
série.
Les littéraires, les scientifiques.
Ce choix se prolonge aussi, parce qu'il faut abandonner ensuite aussi une spécialité, donc en classe de terminale. Donc, il y a des classes comme ça qui deviennent des classes d'orientation alors qu'elles ne l'étaient pas, par exemple, au niveau première, avant, au niveau des séries. Donc, cette question d'orientation est bien plus prégnante. Et c'est important d'arriver à cerner que c'est un vrai travail pour les équipes, hein, pour les équipes enseignantes, c'est un vrai travail d'éducation au choix. Parce que si les choix ne sont pas éduqués, si les choix ne sont pas organisés, s'il n'y a pas de vraie réflexion sur la question du choix, il y a forcément alors des stéréotypes qui émergent. Si les choix sont libres, il y a des stéréotypes qui
émergent. Mais là, je pense qu'on touche effectivement du doigt.
Il y a le reflet d'une société où il y a des inégalités forcément présentes. Donc ça c'est très bien décrit par plein de sociologues qui expliquent très bien que quand le choix est complètement libre, c'est le reflet en fait des inégalités qui traversent les sociétés. Donc ça, c'est très clairement. Et le rôle de l'école, c'est en fait de contrer un peu cette main invisible et de faire en sorte que ces choix, il y ait une vraie éducation au choix. Alors, est-ce qu'on y est aidé maintenant? Est-ce qu'on y est aidé dans le contexte de la réforme? Effectivement, c'est une réforme qui a été lancée très très vite. Les enseignants sont des gens passionnés par leur discipline. En physique-chimie, par exemple, c'est ma discipline que j'enseigne et je suis absolument passionnée de physique-chimie. Et j'ai appris énormément cet après-midi autour de l'électricité et tout ça, et des réseaux, enfin des tas de choses, les batteries et ce genre de choses. Sur le plan aussi économique, l'interaction aussi avec ce que c'est qu'une entreprise, la dynamique d'une entreprise, un entrepreneur ou une entrepreneuse, qu'est-ce que c'est, parce qu'on en a une ici, donc voilà, une directrice de structure. C'est construire aussi du futur, donc et vous êtes en train de construire un futur où il faut aller très très vite, il faut pédaler, parce qu'il y a pas mal de retard, on le sent bien au niveau de à l'échelle européenne, et nous aussi on pédale dans le contexte de la réforme, et donc on a des besoins. Ça m'amène aux besoins, et on a vraiment des besoins. On a besoin que l'information descende directement dans les établissements scolaires, qu'elle touche en fait les équipes de professeurs. Il faut vraiment que ça touche les professeurs principaux, les équipes qui ont les jeunes au quotidien dans leur classe. Il ne faut vraiment pas que ça s'arrête à un niveau, au rectorat, ou que ça s'arrête dans l'établissement.
Vraiment aller dans l'établissement.
Il faut que ça arrive directement au niveau des équipes, pour qu'elles puissent transmettre à toutes les familles de France, en fait, les besoins vraiment de la société. On voit bien, il y a de grandes orientations qui ont été très récemment décidées. Il y a le plan de déploiement de l'hydrogène, il y a dans le nucléaire,
la relance du nucléaire, tout à fait.
Des nouveaux réacteurs, on a vraiment la dimension du stockage, on voit bien qu'il y a du retard aussi dans plein de dimensions à l'échelle européenne, donc il faut des forces, il faut effectivement des jeunes qui s'orientent là-dedans, et donc il faut effectivement aider les équipes enseignantes pour que l'information descende vraiment au cœur des équipes dans les établissements. Et c'est de l'information qui doit être très claire. Il faut qu'elle soit très très claire, parce que l'information, elle est disponible à droite, à gauche. Parfois, il y a de l'information payante, parce que vous savez, c'est aussi l'information, c'est aussi un business. Donc, en fait, il faudrait que peut-être de ce côté-là, quand c'est tellement important pour l'avenir d'un pays, qu'on puisse se fédérer sur descendre vraiment les grandes lignes au cœur des équipes, d'enseignants, et faire des cartes très très précises aussi en fonction des territoires, parce que les besoins ne sont pas les mêmes. Donc, j'ai compris, il y a des territoires où il y a des zones de production, vous avez une centrale nucléaire, vous allez voir bientôt peut-être une production d'hydrogène au pied de votre centrale nucléaire. Il faut comprendre qu'il y a des installations qui vont être couplées et qui vont être générées par une production qui est déjà présente sur un site. Donc tout ça, il faut de la formation aussi. On n'a pas eu de formation. Je le dis, mais on a...
Non, mais ça donne l'occasion, là. C'est tour de table, justement, je pense, intéressante de ce point de vue.
Oui. De ce côté-là. Donc il nous faut de la formation et de l'information qui descend vraiment pertinente, vraiment hiérarchisée, robuste et très visible sur le plan des territoires et sur le plan des besoins avec les filières, en fonction des filières. Et ça, c'est vraiment une urgence. Si vous voulez que le travail, effectivement, puisqu'on n'a pas beaucoup de formation, très peu de formation, soit efficace et qu'on puisse diriger des jeunes vers des métiers d'avenir et qui servent le pays, parce que le pays France,
la France.
Donc il faudrait effectivement qu'on ait ce type d'information.
Oui.
Il y a peut-être une dernière question dans votre question, c'est-à-dire comment attirer les jeunes vers ces métiers d'avenir, des métiers de l'électricité.
Les jeunes, oui, et les jeunes femmes aussi, je ne sais pas si... Oui.
Les jeunes d'une façon générale, effectivement. Alors il y a le problème du genre, ça a commencé à être... Mais comment les attirer, même tous, je veux dire...
Tous, d'une manière
garçons,
générale, non, mais vous avez raison.
D'une façon générale, filles et garçons, de ce côté-là, je pense que l'expérience est très importante. Il faut pouvoir manipuler, il faut pouvoir toucher des objets. Il y a tous les publics. On a vu que c'est très divers. Il y a forcément, il y a des ouvriers, je pense, mais c'est pas. Voilà, il y a des ouvriers, il y a des chaudronniers, par exemple, dans le nucléaire, c'est important de faire certaines choses. Il faut savoir couler du bon béton avec la bonne épaisseur, par exemple, dans le nucléaire. Donc, il y a des savoir-faire, des choses très très techniques qui sont très importantes et qui sont pas du domaine de. On cherche pas des Mozart. par exemple, d'un domaine technique ou très spécifique, voilà, pour inventer des solutions à, voilà.
Alors il le faut aussi, mais pas que, voilà. Hein, bien entendu.
Et pas
hein,
que. Donc il faut comprendre, il faut qu'ils comprennent aussi qu'on ne cherche pas non plus des Mozart forcément. Et donc ça veut dire que c'est accessible, ça peut être accessible et qu'il faut, il faut mener cette réflexion. Et voilà, cette éducation au choix, il faut l'amener. Et donc, la dernière chose que je dirais, c'est qu'il faut faire, il faut expérimenter. Et par contre, on a un gros souci de ce côté-là, par exemple, au niveau collège, puisque l'éducation, l'orientation et au choix, ça commence, comme je vous l'ai dit, en quatrième, avec 12 heures dévolu à l'orientation. C'est qu'en fait, on ne manipule presque plus. Ça veut dire que, bon, je vous donne une image, en 25 ans, 25 ans de politique éducative, au niveau collège, on est passé, on avait, il y a 25 ans, des groupes, hein, des groupes de travaux pratiques qu'on appelait à 18, où on pouvait faire des expériences, des on touchait du doigt vraiment des choses physiques. Quand j'ai vu ce que faisait mon père, quand il monte ses machines, qu'il enroule son fil et qu'il comprend qu'une aiguille dévie, c'est des choses qui sont des choses très pratiques. Il faut avoir manipulé, il faut pouvoir se projeter dans des expériences aussi, donc il faut avoir touché. Je crois que ça passe aussi par les mains. Par les mains aussi, et ça, cette dimension nous a été ôtée, parce que ces groupes à effectifs réduits, c'est à 18, on avait ça en 5e, 4e, 3e, on pouvait faire des expériences, on montrait des choses. Ok, maintenant, vous allez dans un collège, c'est des groupes à 30, vous êtes sur des groupes à 30, vous faites pratiquement plus d'expérience, vous faites de la leçon de choses, hein, vous montrez éventuellement, vous, en tant que professeur, vous montrez des choses, mais bon, il n'y a plus du tout, sauf à un niveau, c'est en sixième, on peut avoir des effectifs réduits. Mais vous voyez un peu la course, cette course effrénée vers cette réduction de coûts, parce que c'est de la réduction de coûts, on ne peut pas avoir ça autrement, de la réduction de coûts qui a complètement sabré cette dimension expérimentale qui est fondamentale si on veut attirer des, voilà, certaines personnes.
Oui, c'est ça. C'est une autre manière de prendre conscience d'un intérêt ou d'une appétence, et vous l'avez rappelé aussi, l'importance du geste, parce que effectivement, quand...
De la main, c'est très
oui,
important. Je
pense. Sur nos métiers, de manière générale, avec tout ce qu'on a dit, hein, il y a beaucoup de choses qui relèvent de, bon, voilà, de l'installation, du geste bien fait, etc., et du geste professionnel, hein, y compris dans les nouveaux métiers, là, on se pose beaucoup de questions.
Voilà, c'est la réponse que je pouvais faire du côté de l'éducation nationale.
Très bien, en tout cas, merci. Je ne sais pas, François, du coup, si on a beaucoup le temps d'avoir un échange avec la salle qu'on avait prévu, et on a pris beaucoup de retard. Il y avait peut-être une réaction d'Antoine de Fleurieux et peut-être d'autres là autour de la table. Antoine, oui.
Merci, ça va être rapide, mais j'ai noté deux choses. Alors, le toucher, l'expérimenter, là je me permets un coup de pub, mais il y a la Cité des sciences et de l'industrie qui fait des choses admirables. Et pour les entreprises, en tout cas, il y a une association de partenaires qui s'appelle Univers Sciences Partenaires qui existe. Si les entreprises veulent s'engager pour accompagner Univers Sciences, qui est le chapeau de la Cité des sciences
la
et
fédération.
L'industrie, et pour pouvoir formater ses expositions, ses programmes pour les jeunes, il y a tout plein de programmes, c'est très bien fait. D'ailleurs, Madame Lambert est peut-être partie, mais elle intervient, par exemple, dans le cadre d'Univers Sciences Partenaire bientôt, avec Schlumberger pour présenter ce qu'elle a présenté tout à l'heure. Bon, ça, c'était une aparté. Mais sinon, une question, c'est-à-dire que vous avez un besoin sur l'information descendante des métiers, et puis il y aura une concurrence des filières, parce qu'il y a plein de filières qui ont des besoins actuellement. Mais en tout cas, au moins, si l'information descend. Et nous, je pense qu'on a un besoin, alors on s'y prend peut-être mal, mais globalement, on a besoin de faire descendre l'information, mais on ne sait pas toujours comment le faire. Et j'avais compris, moi, qu'il y avait, parce que vous nous avez parlé des rectorats, je croyais me souvenir que dans les rectorats, il y avait des personnes en charge de faire en sorte que le corps professoral soit mis en contact avec les filières ou les entreprises pour pouvoir prendre en considération leurs besoins, oui, mieux connaître leur métier. Je ne sais pas si ça fonctionne bien, alors, pas bien, ou comment est-ce qu'on peut améliorer. C'est parce que finalement, on a le même besoin et il faudrait que ça se rende compte.
En fait, c'est un besoin, enfin, c'est un problème classique, hein, d'amener l'information et juste au bon endroit, aux personnes qui en ont vraiment besoin. Donc, effectivement, dans les rectorats, il y a des chargés de mission culture science, culture scientifique, effectivement, en lien avec les entreprises. Pour autant, ça ne descend pas toujours au cœur, dans le réacteur, c'est-à-dire vraiment au niveau du réacteur. Et donc, vous avez aussi des relais qui sont les associations de professeurs. Donc par exemple, vous pouvez très bien, on on peut être très clairement ces relais auprès, parce que nous avons des adhérents auprès des enseignants. Donc vous avez les associations de professeurs, donc il y a des associations pour chaque discipline. Hein, l'UDPPC par exemple, c'est les associations de professeurs de physique et de chimie. Mais vous avez d'autres associations en fonction effectivement de la discipline. Vous avez aussi des inspecteurs d'académie, qui relaient aussi des choses auprès des enseignants, mais pas toujours. Donc en fait, vous avez, mais si vous voulez toucher directement effectivement les enseignants, passer par les associations, par le milieu associatif. Bon voilà, je vois que Sophie hoche la tête effectivement. Donc l'association par exemple l'UPS, tu veux peut-être en parler. Vas-y.
Alors, un témoignage, oui, peut-être, allons-y.
Viens.
On va vous passer un micro.
Oui, bon, bonjour. Donc, moi, je suis enseignante en classe préparatoire, donc en post-bac, mais je crois que ma collègue Marie-Thérèse a dit tout ce qu'il fallait dire, puisque quand même, malgré tout, une grosse partie du choix de l'orientation se passe effectivement à la transition collège-lycée, puis après, dans les choix des spécialités au lycée. Je rebondis tout à fait sur ce besoin de toucher, de s'émerveiller surtout. Et je crois que voir une petite aiguille aimantée s'orienter autour d'un fil électrique comme ça, bizarrement, je pense que ça peut émerveiller. Et j'ai toujours, beaucoup de regrets d'entendre que l'électricité, l'électromagnétisme sont des sciences désuètes. Totalement has-been, complètement passé de mode, j'entends ça dans mon milieu, et même de la part des élèves, c'est souvent un petit peu l'image qu'ils en ont, et quand on rebondit sur tous les arguments que vous avez donnés, et comme Marie-Thérèse, je vais repartir avec plein de choses à leur dire, et leur dire que non, l'électromagnétisme et l'électricité ne sont pas des sciences obsolètes,
si
mais au contraire...
Si désuètes que ça.
Comment ?
Oui, oui, c'est ça.
Mais d'avenir, et il y a énormément des, prometteuses innovations. Et on a un petit peu, en classe préparatoire, puisque nos élèves scientifiques se dirigent donc dans des écoles, pour la majorité, des écoles d'ingénieurs, c'est un petit peu pareil quand ils doivent faire leur choix, puisqu'ils ont des choix, hein, ils peuvent choisir. On a le même problème de représentation avec l'optique. Alors, il y a Supélec, maintenant, qui est greffé à Centrale, donc c'est beaucoup plus attractif. Mais il y a Supoptique. Oh, bah oui, Supoptique, les lentilles. Mais on leur dit, mais non, mais regardez, c'est pas du tout ça. Nous avons été souvent invités par l'Institut d'Optique, enfin, Supoptique, enfin, ce mot-là. Et donc, nous sommes très aussi au fait de tous ces débouchés-là. Et je crois qu'il y a ces représentations qui sont complètement erronées, passées de mode. Et je pense qu'effectivement, l'UPS, par exemple, mais l'UDPPC, c'est beaucoup plus de professeurs. Nous sommes beaucoup moins, hein, nous sommes 3000. Et nous avons de fréquents contacts avec les écoles d'ingénieurs qui nous présentent les débouchés de leurs élèves. Et donc, nous pouvons diffuser cette information-là, mais c'est vrai que toucher les professeurs de lycée, dans les lycées, c'est très important. Et passer par des intermédiaires, à mon avis, est nettement moins efficace, parce que l'intermédiaire n'a pas la fibre, n'a pas l'enthousiasme.
Oui, ni le contact, finalement, avec les jeunes
le
aussi.
Le contact. Voilà. Et finalement, se fait le lecteur d'un catalogue. Et ce qui est extrêmement, à mon avis, contre-productif. Si le professeur voit un intervenant qui est passionné par son métier, passionné par le domaine dans lequel il baigne, son environnement, il saura communiquer sa passion et il y aura un transfert de moins. Si vous voulez, c'est le rapport signal sur bruit, vous savez, qui diminue. Lorsque c'est un conseiller d'orientation qui va rencontrer, alors je ne veux absolument pas critiquer les conseillers d'orientation, mais si vous voulez, quand c'est un conseiller, c'est une personne intermédiaire qui va recevoir une documentation, comme elle va recevoir une documentation sur les infirmières, les métiers agricoles, qui se contente de redire, enfin de lire des catalogues. Je suis désolée pour cette image peut-être un peu réductrice, mais c'est un petit peu ça. eh bien, ça n'a absolument pas le même impact sur les jeunes.
Parce que moins incarné, moins effectivement cette dimension passionnante que j'ai relevée dans ce que je disais tout à l'heure. Hein, c'est, voilà, j'ai quand même toujours très frappé hein, du côté passionné et effectivement des enseignants, en particulier dans ces matières scientifiques. Ouais. Merci.
Et ouais. Parler d'innovation, ouais. Je pense, bon, plus je peux... montrer... certaines disciplines enseignées plutôt du côté de l'innovation et des potentiels futurs que, bon, l'histoire des sciences, c'est fabuleux. Moi, je trouve que c'est extraordinaire. Ce qu'Hélène a présenté est, à mon avis, extraordinaire pour qu'on comprenne que ça ne coule pas, ça tombe pas du ciel, ça ne coule pas de source. C'est difficile. Tout le monde n'est pas Mozart. On se le réveille pas comme ça. Tout le monde n'est pas Einstein aussi. Einstein et l'électricité, on pourra en parler aussi. Mais je veux dire, c'est voilà, il y a cet aspect-là et il y a l'aspect faire et il y a l'aspect concevoir pour le futur. Voilà, désolée si j'étais un petit peu...
Non, mais merci, juste, merci de ce témoignage. Oui, Madame Lehoucq, et puis après, il y avait Madame Avenas aussi qui voulait... Okay. Ah, oui. Non, non, allez-y, Madame Lehoucq.
Je voulais dire sur l'émerveillement, pas plus tard, pour donner des situations très concrètes dans les classes, dans la classe. Donc, en classe de terminale, on était en train de faire une synthèse, et puis j'avais un élève qui regardait, vous savez, le front du reflux, le reflux. Et il le voyait danser comme ça, s'agiter, puis les gouttes qui perlaient, et puis il regardait des gouttes perler ici, puis là, et puis le front du reflux qui bougeait, qui pouvait un peu monter en fonction du petit réglage qu'il faisait en dessous avec son chauffe-ballon. Et il était complètement passionné par ce truc-là, en oubliant effectivement tout le reste à côté. Et puis il m'a dit, oh, qu'est-ce que j'aime cette expérience, elle est belle. Et donc ça, vous voyez, c'est des choses comme ça, je pense que...
Un déclic,
voilà,
c'est ça.
C'est, ouais. Voilà, la beauté d'une expérience sur ce front du reflux dansant et ces gouttes qui perlent, eh bien, ça, pour lui, c'était très, très beau. Voilà, donc voilà, il y a des moments un peu comme ça magiques, qu'on peut avoir si on fait de l'expérience. Oui, mais ça. Si on ne peut pas faire d'expérience au collège, c'est un peu difficile.
C'est vrai. Voilà. Madame Avenas-Payan, vous vouliez rajouter quelque chose, et puis on entame avec vous un petit peu le tour de conclusion, là, un mot à chacun pour conclure la table ronde.
Oui, moi je voulais ajouter, tout à l'heure j'ai parlé des interventions qu'on faisait auprès des jeunes, mais en fait c'est vrai qu'on s'est aperçu que c'était tout aussi important d'intervenir auprès des adultes qui entourent les jeunes. Alors ce sont leurs parents, leurs enseignants, les chefs d'établissement, les conseillers d'orientation, etc. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils sont les relais de nos messages que l'on donne aux jeunes, et en fait, c'est tout aussi important. En fait, alors, par rapport à... Alors, je ne veux pas minimiser les interventions des personnes qui travaillent en entreprise, hein, loin de moi. Mais c'est vrai qu'en tant que personnes qui œuvront en tant que bénévoles pour l'Association des ingénieurs et scientifiques de France, on ne représente aucune entreprise et aucune école non plus, parce que dans les forums qu'organisent les établissements scolaires, souvent, il y a tout un tas d'écoles, d'ingénieurs qui sont représentés et qui font la retape, comme on dit, de leur école. Et en fait, souvent, ils sont en mesure de parler de leur école, mais pas de ce qui va se passer par derrière. Alors que nous, on va vraiment parler des métiers, parce que étudier, bon, c'est très beau, c'est très intéressant, c'est passionnant, mais ce n'est pas une fin en soi, c'est-à-dire c'est pour aller vers, a priori, un travail... Je voulais aussi, alors tant qu'à faire...
Un dernier mot, voilà, parce qu'on va devoir...
Un dernier mot, ouais. Par rapport aux écoles d'ingénieurs, parce qu'en fait, alors c'est la commission des titres d'ingénieurs, et non pas le comité, mais bon, peu importe, donc qui est en fait une agence d'évaluation des écoles d'ingénieurs, et à savoir que ces écoles d'ingénieurs, elles sont de plus en plus en relation avec les entreprises, et qu'elles ont besoin de travailler, on parlait de compétences, elles ont besoin de travailler avec les entreprises pour mieux connaître les besoins des entreprises et pour répondre en fait en quelque sorte dans leur formation. Et toute formation aujourd'hui, il y a des formations, c'est formation initiale, formation par apprentissage, formation tout au long de la vie, validation d'acquis d'expérience, enfin ces écoles tiennent compte de tous ces aspects-là. Donc enfin, c'est en plein changement et dans le bon sens du terme, je pense.
Oui. Très bien, merci. Antoine de Fleurieu, un petit mot pour conclure. De votre côté, qu'est-ce que un petit en synthèse que vous retenez peut-être, ou peut-être une idée pour la suite.
Électrique, numérique et écologique, tel est notre futur. C'est notre baseline, nous, depuis quelques années. Mais c'est vraiment les technos de l'avenir. Quoi. C'est,
voilà.
Et en termes de métiers, ce sont des métiers, à mon avis, passionnants et qui sont de valeur, et de valeur économique aussi. Alors, par contre, nous, on a en plus un problème, et c'est inhérent non pas à l'électrique, mais en général à l'industrie, c'est qu'il faut en plus valoriser l'industrie. C'est-à-dire qu'un emploi dans l'industrie n'est pas un mauvais emploi. D'ailleurs, ça paye souvent plutôt mieux qu'ailleurs, mais ça ne se sait pas assez. Voilà. On a en plus le challenge de redorer l'image de l'industrie.
Très bien, merci. Madame Lehoucq, un dernier mot.
Je ne sais pas, je vais peut-être vous parler de quelque chose que j'ai appris tout récemment, puisqu'il était question de réseau électrique. Et donc, à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, en fait, avant que le traité de Rome soit signé en 1957, il y a des électriciens qui étaient parfois jeunes, moins jeunes, mais enfin, qui étaient là et qui se sont dit on pourrait faire un réseau, on pourrait tirer des câbles et faire de l'interconnexion entre deux pays. Et ils ont commencé à réfléchir et à construire donc ce réseau. Et finalement, ce réseau, l'Europe, on pourrait le dire comme ça en fait, c'est que l'Europe de l'électricité a finalement émergé avant finalement l'Europe économique. Et c'était des questions de solidarité. Voilà, en cas de coup dur, un réseau, ça peut nous aider. Donc en fait, on peut encore, dans le domaine de l'électricité, participer à une formidable aventure comme la leur à ce moment-là.
Très bien, et tous ces métiers, effectivement, y contribuent. Merci pour ce message. Anne Valax, à votre tour, un petit mot de conclusion.
Non, moi, je reviendrai juste sur la question d'Antoine sur le contact avec les professeurs, et je remercie Madame Lehoucq pour sa réponse, sur les associations de professeurs, parce que je crois que le point important, c'est que maintenant, nous, on sache montrer nos métiers et leurs possibilités au plus près des élèves et des jeunes, parce que c'est vraiment des jeunes dont on a besoin, et que nous n'avons qu'une envie, c'est effectivement d'arriver à toucher les professeurs le plus près possible pour leur donner tous les éléments nécessaires pour expliquer à leurs élèves ce que sont nos métiers et les possibilités qu'ils offrent à tous ces jeunes.
Voilà, et on répondra présent, bien sûr.
Très bien, merci beaucoup. Et puis moi, je peux témoigner aussi du travail qu'on fait. J'étais sensible à votre remarque, sur effectivement, chacun va vendre sa soupe. Nous, on essaye en tout cas entre associations et entre réseaux, là, et on est trois autour de la table d'associations d'entreprises, de travailler ensemble pour une cause commune. Après, les jeunes, s'ils sont effectivement conquis, s'ils ont envie de se diriger vers ces métiers, ils choisiront bien ensuite l'entreprise qu'ils voudront. Je pense que c'est vraiment une cause nationale, là, en tout cas, que je partage. Et donc, merci. Je voulais remercier François Gérin d'avoir organisé cette table ronde et nous avait donné l'occasion de parler de cette importante question des métiers. Merci à vous tous. Et puis, les ressources, vous allez les trouver sur Internet, l'étude sur les emplois et les compétences dont je parlais. Et puis, il y a aussi les sites Internet de nos différentes associations. Vous trouvez aussi pas mal d'infos. Merci beaucoup.